Le journal de George Fox 1667-1685 Angleterre, Europe et retour page de Je vécus dans le Nord pendant plus d'un an, y ayant du service pour le Seigneur parmi les amis, et étant fort occupé à écrire en réponse à des livres publiés par des adversaires, et à exposer au monde les principes et doctrines de la vérité, afin qu'ils en viennent à en avoir une juste intelligence et à être rassemblés dans la vérité. J'écrivis aussi plusieurs épîtres aux amis durant ce temps. L'une était destinée à la réunion annuelle tenue à Londres cette année-là, 1679, dont une copie suit ici. Mes chers amis et frères, vous qui êtes assemblés au nom et dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ remplissent tous vos cœurs et vous affermissent dans sa grâce, sa miséricorde et sa paix sur Christ, le Saint Rocher vivant et fondement, qui est le premier et le dernier, et au-dessus de tous les fondements et rochers dans le monde entier, un rocher et fondement de vie sur lequel tous les vivants peuvent bâtir, et qui demeure ferme dans sa lumière céleste et divine, qui est la paix. C'est pourquoi de tels bâtisseurs ne pouvaient recevoir la loi de vie de Christ, la pierre précieuse posée en Sion, ni la parole de la Jérusalem céleste. Mais vous, mes chers amis, qui avez reçu cette loi de la Sion céleste et la parole de la Jérusalem céleste, dans la nouvelle alliance, où la vie et la substance sont goûtées, vous voyez l'achèvement et l'abolition de la loi et des cérémonies des Juifs, issues du mont Sinaï. Et c'est pourquoi mon désir est que vous demeuriez tous dans la loi de vie et d'amour que vous avez en Jésus-Christ. Par cet amour le corps est édifié, lié et uni à Jésus-Christ, la tête. Cet amour supporte toutes choses, accomplit la loi, préservera tous dans l'humilité, et en lui d'un même esprit, d'un même cœur et d'une même âme. Ainsi tous pourront boire à cet unique esprit, qui les baptise et les circoncis, les plongeant et retranchant le corps des péchés de la chair, qui s'est élevé chez l'homme et la femme par leur transgression des commandements de Dieu. Afin que, dans cet esprit saint et pur, tous puissent servir et adorer le Dieu pur en esprit et en vérité, ce qui est au-dessus de toutes les formes de culte qui sont hors de l'esprit de Dieu et de sa vérité. Dans cet esprit, vous aurez tous une unité spirituelle et une communion au-dessus de toutes les communions des esprits impurs qui sont hors de la vérité dans le monde. Par ce Saint-Esprit, tous vos cœurs, vos pensées et vos âmes peuvent être liés à Christ, d'où il procède, et par la grâce et la vérité venue par Jésus-Christ, sous l'enseignement desquels tous doivent se tenir dans la nouvelle alliance, et non sous la loi comme les Juifs extérieurs dans l'ancienne alliance. Par cette grâce et cette vérité dans la nouvelle alliance, tous peuvent être rendus hommes et femmes libres de Dieu, pour servir Dieu dans la vie nouvelle, la voie nouvelle et vivante, manifestant les fruits du cœur nouveau et de l'esprit nouveau, dans la nouvelle alliance, au-dessus de la mort et des ténèbres. Gloire au Seigneur pour toujours. Dans cette grâce et cette vérité se trouve une liberté céleste, pleine de grâce et véritable, pour tout esprit spirituel, qui vous affranchit de celui qui est hors de la vérité, là où était votre servitude. Et aussi votre liberté dans la foi sainte, divine et précieuse, qui vous donne la victoire sur ce qui autrefois vous séparait de Dieu et de Christ, par cette foi, vous avez de nouveau accès à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi, dans cette foi divine et sainte, vous avez une liberté divine, sainte et précieuse, oui, et la victoire sur celui qui vous séparait de Dieu, et cette foi est gardée dans une conscience pure. Donc la liberté dans l'Esprit de Dieu est dans ce qui baptise et plonge le péché et l'iniquité, et dépouille le corps de mort et les péchés de la chair, qui se sont élevés par la transgression du commandement de Dieu. Et aussi la liberté de l'Évangile, envoyé du ciel par le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui fut et doit de nouveau être prêché à toutes les nations. Dans cet évangile sont la vraie liberté, la communion et l'ordre de l'évangile. Ainsi l'esprit mauvais ou la conscience ou la fausse foi morte, tout ce qui est sans grâce hors de la vérité, et non dans l'esprit de Dieu, ni dans son évangile, ni dans la foi divine, sa liberté est dans les ténèbres, car toute vraie liberté est dans l'évangile, et dans la vérité qui a franchi, dans la foi, dans la grâce et en Jésus-Christ qui détruit le diable et ses œuvres, lui qui a amené toute l'humanité en servitude. Ainsi dans cet esprit céleste et pacifique, dans la vérité et la foi qui agit par l'amour, et dans l'évangile de paix, et en Jésus-Christ se trouve toute la paix des saints et leur liberté pure, vraie et sainte, en laquelle ils ont le sel, le sens, le sentiment, le discernement et la saveur, oui, et l'unité et la communion les uns avec les autres, et avec le Fils et le Père, cette communion céleste et éternelle. Ainsi tous, étant soumis à la grâce et à la vérité, et à la foi et à l'évangile, la puissance de Dieu, et à son bon esprit, distingue en cela toute liberté vraie, pure et sainte de ce qui est faux. Cela amènera tous à s'abaisser, car la patience court la course, et l'agneau doit avoir la victoire, et non les parleurs rudes, indociles et vains, non baptisés, non circoncis et non sanctifiés. Cela ne chemine pas dans la voie de la régénération, mais dans la voie de la non-régénération, ils ne descendent pas non plus dans la mort avec Christ par le baptême. Ils ne peuvent régner avec lui dans sa résurrection s'ils ne sont pas ensevelis avec lui dans son baptême. C'est pourquoi tous doivent descendre dans la mort de Christ et être crucifiés avec lui, s'ils veulent se lever et le suivre dans la régénération avant de venir régner avec lui. Et amis, beaucoup peuvent avoir de précieuses ouvertures, mais je désire que tous soient compris dans ce qui s'ouvre à eux, et qu'ils demeurent tous dans la croix quotidienne, ainsi ils demeurent dans la puissance qui tue et crucifie ce qui les conduirait parmi les bêtes et les boucs, pour les lever nés dans leur esprit rude et indocile, afin que par la croix la puissance de Dieu cela soit crucifiée et que dans la puissance puisse suivre l'agneau. Car la puissance de Dieu maintient tous dans l'ordre, la soumission et l'humilité, dans ce qui est aimable, vertueux, décent, convenable, tempérant et modéré, de sorte que leur modération paraisse à tous les hommes. Mon désir est que toutes vos lumières brillent comme d'une ville située sur une colline, qui ne peut être cachée, et que vous soyez le sel de la terre pour saler, assaisonner et la rendre savoureuse à Dieu, et que vous soyez tous assaisonnés par ce sel. Alors tous vos sacrifices seront une douce odeur pour le Seigneur, et vous serez comme les lilies et les roses, et comme le jardin de Dieu, qui lui exhale un doux parfum, jardin qui est préservé par sa puissance, là et qui écarte tous les indociles et les insipèdes, les destructeurs et ceux qui blessent les vignes, les bourgeons et les plants, et la tendre pousse de Dieu, qui jaillit sa semence de vie, qui l'arroie à chaque instant de son eau céleste et de sa parole de vie, afin qu'il croisse et porte du fruit, pour qu'ainsi il ait un jardin agréable. Ici tous sont gardés frais et verts, étant arrosés à chaque instant par l'eau sainte et éternelle de la vie venant du Seigneur, la source. Mes chers amis, mon désir est que cette semence céleste, qui écrase la tête du serpent au-dedans comme au-dehors, soit votre couronne et votre vie, et que vous soyez en lui, les uns pour les autres couronne et joie, à la louange du Seigneur Dieu au-dessus de tout, béni à jamais. Cette sainte semence survivra et usera tout ce que la mauvaise semence, depuis la chute de l'homme, a produit et établi. Comme chacun a reçu Christ Jésus le Seigneur, marchez ainsi en lui dans l'humilité qu'il enseigne, et évitez les occasions de querelles, les vaines argutises et les disputes avec des hommes à l'esprit corrompu, qui sont dépourvus de la vérité, car la vérité est paisible, l'Évangile est une demeure paisible dans la puissance de Dieu. Sa sagesse est paisible et douce, et son royaume subsiste dans la paix. Ô, sa gloire resplendit sur toutes ses œuvres, en Jésus-Christ vous aurez une paix qui n'est pas de ce monde, oui, une paix que le monde ne peut ôter, car la paix que vous avez de lui était avant que le monde fût, et elle sera quand il aura disparu. Cela maintient tous dans ce qui est lourd et substantiel au-dessus de toute paille. Gloire au Seigneur Dieu au-dessus de tout, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, mes chers amis, le Seigneur exige davantage de vous que d'autres personnes, parce qu'il vous a confié davantage. Il exige les fruits de son esprit, de la lumière, de l'évangile, de la grâce et de la vérité, car par vos fruits il est glorifié, comme l'a dit Christ, lorsque vous portez beaucoup de fruits, des fruits de justice, de sainteté, de piété, de vertu, de vérité et de pureté, afin que vous répondiez à ce qui est de Dieu en tout. Soyez vaillants pour son évangile éternel et glorieux, dans le Saint-Esprit de Dieu et la vérité demeurant dans l'unité, et dans le Saint-Esprit, la lumière et la vie, qui sont au-dessus de la mort et des ténèbres, et qui étaient avant que la mort et les ténèbres ne fussent. Dans cet esprit, nous avons le lien de la paix, qui ne peut être rompu que si vous vous écartez de l'esprit, alors vous perdez cette unité et ce lien de paix que vous avez du Prince de paix. Le monde aussi attend davantage des amis que d'autres personnes, parce que vous professez davantage. C'est pourquoi vous devriez être plus juste que d'autres dans vos paroles et vos affaires, plus droit, plus saint et plus pur dans vos vies et vos conduites, afin que vos vies et vos conduites puissent prêcher. Car les langues et les bouches du monde ont prêché assez longtemps, mais leurs vies et leurs conduites nient ce que leurs langues ont professé et déclaré. Et chers amis, efforcez-vous de vous surpasser les uns les autres en vertu afin de croître dans l'amour, cette voie excellente qui unit tous à Christ et à Dieu. Levez-vous pour la gloire de Dieu, et prenez garde à ce qui concerne l'honneur du Seigneur, afin qu'en aucune manière sa puissance ne soit abusée, ni que son nom soit décrié par quelque mauvais parleur ou mauvais marcheur, mais qu'en toute chose Dieu soit honoré, et que vous le glorifiez dans vos corps, vos âmes et vos esprits, le peu de temps que vous avez à vivre. Mon amour à vous tous dans la sainte semence de vie, qui règne sur tout et est le premier et le dernier, en qui vous avez tous la vie et le salut, et votre élection et votre paix avec Dieu par Jésus-Christ, qui détruit celui qui s'est tenu entre vous et Dieu, afin que rien ne soit entre vous et le Seigneur sinon Christ Jésus. Amen. Ma vie et mon amour sont à vous tous et parmi vous tous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par sa puissante puissance, par laquelle il a préservé son peuple jusqu'à ce jour, vous préserve et vous garde tous dans sa puissance et dans la sainte vérité pacifique, dans l'unité et la communion les uns avec les autres, et avec le Fils et le Père. Amen. George Fox, le 24e jour du 3e mois, 1679. J'écrivis plusieurs autres épîtres et écrits aux amis durant mon séjour dans le Nord. L'une était pour encourager les amis à être hardis et vaillants pour la vérité, à laquelle le Seigneur les avait appelés à rendre témoignage. Elle était comme suit. « Chers amis, soyez tous vaillants pour la vérité du Seigneur sur la terre, dont le serpent Satan, le diable est dehors, et dans la vérité tenez-le dehors, en elle vous avez tous la paix, la vie et l'unité avec Dieu et son Fils, et les uns avec les autres. Que l'amour de Dieu remplisse tous vos cœurs, afin qu'en lui vous puissiez vous édifier et vous fortifier les uns les autres dans la lumière, la vie, le Saint-Esprit et la puissance de Dieu, le glorieux évangile consolateur de Christ, l'homme céleste, votre Seigneur et Sauveur, qui remplira tous vos vases de son vin céleste et de l'eau de la vie, vous vêtira de son vêtement céleste, de son fin lin qui ne vieillit jamais, et vous armera de son armure céleste, afin que vous demeuriez de fidèles témoins pour Dieu et son Fils, qui est venu vous. Marchez donc en lui, en qui vous avez tous la vie et le salut, et la paix avec Dieu. Mon amour à vous dans le Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai travaillé, et que Dieu Tout-Puissant, dans sa puissance et sa sagesse éternelle, vous préserve pour sa gloire. Amen. George Fox Swarthmore, le 29 jour du 10 mois, 1679. Le lendemain, je sentis en moi que certains, ayant reçu la vérité, avaient eu des ouvertures concernant la vérité, mais qu'ensuite ils s'étaient écartés de la vérité. Cela était arrivé parce qu'ils n'étaient pas demeurés bas et humbles. Je fus poussé à publier l'épître suivante, comme avertissement et exhortation à tous de demeurer dans l'humilité. Mes chers amis, que le Seigneur, dans ses tendres miséricordes, a visité par l'aurore venue d'en haut, et qu'il a ouvert pour confesser et se courber devant son nom, demeurez bas dans vos pensées, et apprenez de Christ qui vous enseigne l'humilité afin d'y demeurer. Ainsi, en aucune manière vous qui êtes plus jeunes ne deviendrez exaltés, enflés d'orgueil ou présomptueux par vos ouvertures, et par là ne perdrez votre condition, étant emportés vers la présomption puis précipités dans le désespoir, et n'abuserez ainsi de la puissance de Dieu. Car c'était le souci des apôtres que nul n'abusât de la puissance du Seigneur Dieu, mais qu'en toute chose leur foi se tint dans la puissance, afin qu'ils fussent tous compris dans la vérité qu'ils annonçaient aux autres, de peur qu'ayant prêché aux autres, ils ne fussent eux-mêmes réprouvés. Il vous importe donc d'être compris dans ce que vous prêchez aux autres, et d'y demeurer bas, alors le Dieu de vérité élèvera les humbles dans sa vérité, sa lumière, sa grâce, sa puissance et son esprit, et dans sa sagesse pour sa gloire. Ici tous sont gardés dans leur mesure de grâce, de lumière, de foi et de l'Esprit de Christ, l'homme céleste et spirituel. Que nul donc n'était l'esprit, ni ses mouvements, ni ne l'attriste, ni ne s'en écarte, mais soyez conduits par lui, qui maintient chacun dans sa tente, ce Saint-Esprit de Dieu leur donne l'intelligence de la manière de servir, d'adorer et de plaire au Dieu saint et pur, leur artisan et créateur en Jésus-Christ, et de la manière d'attendre, de parler et de répondre à l'Esprit de Dieu dans son peuple. En ce Saint-Esprit se trouve la sainte unité et la communion. Le Saint-Esprit enseigne à l'Esprit saint, doux, humble, paisible et abaissé, à répondre à la semence que Christ a semée sur tous les terrains, et à répondre à la lumière, à la grâce, à l'Esprit et à l'Évangile en chaque créature, quand bien même ils se sont écartés dans leur cœur de l'Esprit, de la grâce, de la lumière et de l'Évangile. Ainsi, par une marche sainte, tous peuvent en venir à le faire, tout comme par une prédication sainte, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses par vous, et que vous portiez des fruits à sa louange. Amen. George Fox Swarthmore, le 30 jour du 10 mois, 1679. Vers la fin de cette année-là, je fus poussé par le Seigneur à voyager de nouveau vers le sud. Je partis au commencement du premier mois, 1679, et traversant une partie du Westmoreland et du Lancashire, je visitai les amis dans plusieurs réunions et arrivai dans le Yorkshire. J'eus plusieurs grandes réunions importantes dans le Yorkshire, avant d'arriver à la ville de York. Lorsque j'y arrivai, c'était le temps des assises, et comme beaucoup d'amis étaient en prison à cause de la vérité, je donnai à ceux qui étaient en liberté la charge de consigner les souffrances des amis en prison, afin qu'elles puissent être présentées au juge, et je les assistai dans cette tâche. La réunion trimestrielle des amis avait aussi lieu à ce moment-là, j'eus donc parmi eux une magnifique occasion. Le Seigneur ouvrit par moi à la réunion beaucoup de choses graves et utiles, concernant l'état intérieur de l'homme, comment, par la foi en Christ, l'homme vient à être greffé en lui et à devenir membre de son corps spirituel, et aussi l'état extérieur de l'Église, comment chaque membre doit marcher et agir selon sa place dans le corps. Je passai plusieurs jours à York, tenant plusieurs réunions, et tout fut paisible et bon. J'allai aussi au château visiter les prisonniers, auprès desquels je restai un certain temps, les encourageant et les fortifiant dans leur témoignage. Puis, quittant York, je voyageai vers le sud, tenant des réunions parmi les amis, jusqu'à ce que j'arrive à Burton, dans le Lincolnshire, où, le premier jour, j'eus une grande et précieuse réunion. Puis, entrant dans le Nottinghamshire, je parcourus une bonne partie de ce comté, où j'eus plusieurs très bonnes réunions, puis je passai dans le Derbyshire, le Leicestershire et le Warwickshire, tenant des réunions tout le long de ma route, jusqu'à ce que j'arrive à Warwick, où William Dewsbury et plusieurs autres amis me rejoignirent, et nous eûmes une petite réunion dans la ville. En passant par Southam et Radway, nous eûmes une très bonne réunion en chacun de ces lieux, après quoi je me rendis chez Nathaniel Ball, de North Newton, dans l'Oxfordshire, puis à Banbury pour une réunion mensuelle. Après avoir visité les amis à leur réunion dans les régions limitrophes de l'Oxfordshire, du Gloucestershire et du Northamptonshire, je me rendis chez Richard Bake de Bidlesden dans le Buckinghamshire, et le lendemain, étant le premier jour, j'eus une très grande réunion à Bidlesden, dans une ancienne maison d'Abbaye qu'un ami louait et habitait. Beaucoup d'amis et de personnes vinrent à cette réunion depuis l'Oxfordshire, le Northamptonshire et les régions voisines, et ce fut d'un bon service. Après cela, je visitai les amis de ces régions, tenant des réunions à Lillingstone, Lovell et Buckbrook. Puis, allant à Stony Stratford, j'entrai dans quelques parties du Bedfordshire, jusqu'à ce que j'arrive chez Edward Chester à Dunstable. En continuant par Market Street, j'eus une réunion à Alban, et rendant visite aux amis à Mimes et à Barney, j'arrivai chez la veuve Rowley, à Guttershedge, à Andon, dans le Middlesex, un soir de septième jour, et j'y eus une très grande et bonne réunion le jour suivant. Je partis de là pour Londres le troisième jour suivant, et allai directement à la réunion de Peel chez John Elson, et le lendemain matin à la réunion de Gracechurch Street, qui était très grande et tranquille, et les amis se réjouirent dans le Seigneur de me voir. La réunion annuelle eut lieu la semaine suivante, à laquelle beaucoup d'amis vinrent de la plupart des régions du pays, et le Seigneur nous donna ensemble une occasion bénie, où l'amour ancien fut doucement ressenti, et la vie céleste coula abondamment sur tous. Après la réunion annuelle, je demeurai environ un mois ou cinq semaines à Londres et aux environs, travaillant à l'œuvre du Seigneur, tant dans les réunions que hors des réunions. Car outre le témoignage public que le Seigneur me donna à porter, aux amis et au monde, dans les réunions, j'avais beaucoup de services à accomplir au sujet des souffrances des amis, cherchant à obtenir pour eux soulagement et liberté dans ce pays et dans d'autres. Je consacrai beaucoup de peine et de temps, pendant mon séjour à Londres, à écrire des lettres aux amis dans de nombreuses régions d'Angleterre, et en Écosse, en Hollande, à la Barbade, et dans plusieurs autres parties de l'Amérique. Après cela, je fus poussé par le Seigneur à visiter les amis dans certaines parties du Surrey et du Sussex. Je me rendis à Kingston par voie d'eau, et j'y demeurai quelques jours, car pendant que j'y étais, le Seigneur me mit à cœur d'écrire tant au Grand Turc qu'au gouverneur d'Alger pour les avertir, eux et les gens sous leur autorité, de se détourner de leur méchanceté, de craindre le Seigneur et d'agir justement, de peur que les jugements de Dieu ne viennent sur eux et ne les détruisent sans remède. Aux Algériens, j'écrivis en particulier au sujet de la cruauté qu'ils exerçaient envers les amis et d'autres qu'ils retenaient captifs à Alger. Quand j'eus achevé ce service et visité les amis dans leur réunion à Kingston, je m'enfonçai davantage dans le pays et tins des réunions parmi les amis à Worplesdon, Guildford, Esher, Capel, Padgett, Worminghurst, Bletchington, Rosham, Ifield, Reigate, Gatton, puis de retour à Kingston, et de là à Hammersmith. Ayant passé quelques jours au service de la vérité parmi les amis à Hammersmith, Battersea, Wandsworth et dans les environs, je traversai par Kensington vers Andon, où j'eus une très bonne réunion le premier jour, puis je me rendis à Londres. Après avoir été environ 10 jours à Londres, je fus de nouveau poussé à visiter les amis à la campagne, et j'allai à Edmonton chez Christopher Taylor, qui tenait une école pour l'éducation des enfants des amis. J'eus quelques services parmi les enfants, puis je partis vers Hertford, visitant les amis en chemin. À Hertford, je rencontrai John Story et quelques autres de son parti, mais le témoignage de la vérité prévalut sur eux et les teints abaissés, de sorte que la réunion fut tranquille. C'était un premier jour, et le lendemain, ayant lieu la réunion d'affaires des hommes et des femmes, je la visitai aussi, et ce fut d'autant mieux que certains, dans ce lieu, en avaient méprisé l'importance. Je fus alors poussé à exposer le service de ces réunions, et l'utilité et le bénéfice qu'elles apportent à l'Église de Christ, selon ce que le Seigneur ouvrait à mon esprit, et cela fut d'un bon service pour les amis. J'eus aussi une réunion, avec quelques-uns de ceux qui étaient tombés dans la crêle et la contestation, pour leur montrer en quoi ils avaient tort, et m'étant dégagé à leur égard, je les laissai au Seigneur. Après une autre réunion publique en ville, je retournai vers Londres par Waltham Abbey, où j'eus une réunion publique le premier jour suivant, et une autre avec les amis le soir. Le jour suivant, j'allai chez Christopher Taylor à Edmonton, et j'y restai un jour ou deux, ayant quelque chose à écrire pour le service de la vérité. Quand j'eus achevé ce service, je me rendis à Londres par Shacklowell, où les amis avaient une école pour l'éducation des jeunes filles, filles d'amis. Je résidai à Londres la majeure partie de cet hiver, y ayant beaucoup de services pour le Seigneur, tant dans les réunions que hors des réunions. Parce que c'était un temps de grande souffrance parmi les amis, je fus entraîné en esprit à visiter plus fréquemment les réunions des amis, pour les encourager et les fortifier par exhortation et par exemple. Le Parlement siégeait aussi, et les amis étaient diligents à se présenter à lui pour exposer leurs griefs. Nous recevions, presque chaque jour, de nouveaux récits des tristes souffrances que les amis enduraient dans de nombreuses régions du pays. Je passais beaucoup de temps, avec d'autres amis qui s'étaient librement consacrés à ce service, à chercher du secours pour mes frères souffrants, fréquentant la chambre du Parlement de nombreux jours de suite, et guettant toute occasion de parler avec les membres de l'une ou l'autre chambre qui voudraient entendre nos justes plaintes. Et en effet, certains membres de chaque chambre étaient très courtois et semblaient disposés à nous aider s'ils le pouvaient. Mais le Parlement d'alors était occupé à examiner le complot papiste et à trouver des moyens de découvrir qui étaient les Simpsons papistes. Bien que nos adversaires sussent en leur conscience que nous n'étions pas papistes et qu'ils eussent l'expérience de savoir que nous n'étions pas des conspirateurs, ils saisirent les avantages contre nous parce qu'ils savaient que nous ne pouvions ni prêter serment ni combattre pour nous exposer aux peines qui avaient été établies contre les papistes. Pour laver notre innocence et fermer la bouche de nos adversaires, je rédigeai un court écrit à remettre au Parlement comme suit. C'est notre principe et notre témoignage de nier et de renoncer à tout complot et comploteur contre le roi ou l'un quelconque de ses sujets, car nous avons l'Esprit de Christ, par lequel nous avons la pensée de Christ, lui qui est venu pour sauver la vie des hommes et non pour la détruire. Nous désirons la sûreté du roi et de tous ses sujets. C'est pourquoi nous déclarons que nous nous efforcerons, selon notre pouvoir, de le sauver et de les défendre, en découvrant tout ce complot et comploteur qui viendrait à notre connaissance et qui voudrait détruire le roi ou ses sujets. Nous vous offrons cela sincèrement. Mais quant au fait de prêter serment et de combattre, ce que, par délicatesse de conscience, nous ne pouvons faire, vous savez que nous avons souffert de longues années pour notre refus dicté par la conscience. Et maintenant que le Seigneur nous a rassemblés, nous désirons que vous nous soulagiez et nous délivriez de ces souffrances, et que vous ne nous imposiez pas de faire ces choses pour ne pas les avoir faites, nous avons déjà tant souffert et si longtemps, car si vous le faites, vous rendrez nos souffrances et nos liens plus forts au lieu de nous soulager. George Fox, à cette époque, je reçus deux livres très envieux écrits contre la vérité et contre les amis, l'un par un docteur ainsi nommé de Brême en Allemagne, l'autre par un prêtre de Dantzig en Pologne. Ils étaient tous deux pleins de grossiers mensonges et de calomnies injurieuses. Je me sentis poussé à y répondre, et, afin de ne pas être sérieusement interrompu par d'autres affaires et par la compagnie, je me rendis à Kingston-upon-Thames, où j'écrivis une réponse à chacun d'eux, ainsi qu'à quelques autres écrits scandaleux qui avaient été imprimés et disséminés pour déformer les amis. Pendant que j'y étais, j'écrivis aussi l'écrit suivant, pour persuader les magistrats à la modération envers les dicides et émousser leur ardeur de persécution, afin qu'il ait tout son effet, je l'adressai ainsi. À tous les dirigeants, magistrats et législateurs d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, du plus élevé au plus humble, et à tous les autres magistrats partout dans ce qu'on appelle la chrétienté, désirant leur santé, paix, tranquillité, vie et saluant Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, et l'Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, à qui toute puissance au ciel et sur la terre est donnée, et qui rendra à chacun selon ses paroles et ses œuvres. Vous qui portez le nom de magistrat chrétien, mon désir est que vous soyez tous trouvés en Christ, et que vous n'en ayez pas seulement le nom, mais que vous soyez rendus participants de sa nature divine, afin que vous ne soyez pas seulement des diseurs de la parole, mais des faiseurs de la parole, pas seulement des professants de Christ et des parleurs de Christ, mais que Christ règne dans vos cœurs par la foi, et que vous marchiez en Christ. Car, comme l'a dit le grand apôtre de Christ, comme chacun a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qu'il marche en lui, car en lui il y a la paix. Si tous ceux qui professent Christ marchaient en Christ, ils marcheraient dans la paix et seraient dans l'unité, car l'apôtre exhortait les chrétiens de son temps à garder l'unité de l'esprit, qui est le lien de la paix, oui, de la paix de Christ, le roi des rois. Tous les chrétiens qui ont les Écritures et ne sont pas dans cet esprit de Christ ne sont pas unis les uns aux autres et ont ainsi rompu ce lien de paix qui devrait les lier et les unir ensemble. De même, tous ceux qui professent la vérité de Christ devraient y vivre, car elle est paisible, et l'Évangile est l'Évangile de paix. Si tous les chrétiens y vivaient, ils seraient en paix les uns avec les autres et dans la glorieuse communion de l'Évangile. Et si tous les chrétiens demeuraient dans la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse pure, céleste, paisible et douce, qui se laisse fléchir, au-dessus de cette sagesse terrestre, sensuelle, diabolique et destructrice, il n'y aurait ni différence ni destruction au sujet des questions de religion. Je déclare que le grand jour du Seigneur est venu et vient, et que le Seigneur Dieu est venu pour enseigner lui-même son peuple par son Fils, Hébreux 8:8-11, lui qui écrase la tête du serpent, ce faux docteur qui a détourné Adam et Ève de Dieu, leur maître. Dieu enseignera son peuple par son Fils, le maître d'Adam et Ève au paradis, avant leur chute, lorsqu'ils désobéirent au Seigneur, l'abandonnèrent et suivirent le serpent, dont Christ écrase la tête, et renouvelle l'homme et la femme pour les ramener à l'image de Dieu dans laquelle Adam et Ève étaient avant leur chute. Gloire et honneur soient à Dieu par Jésus-Christ, qui nous a appelés, par son Fils, à son image glorieuse, pour le servir et l'adorer en son esprit et en sa vérité, Esprit Saint et vérité dont le diable est dehors et dans lesquels il ne peut entrer. Je désire que tous les magistrats chrétiens prennent garde de persécuter qui que ce soit, même s'ils diffèrent de vous en matière de foi, de culte et de religion. Car Christ a dit, « Laissez croître ensemble l'ivraie et le blé jusqu'à la moisson », et il a interdit à ceux qui voulaient arracher l'ivraie de le faire. La raison en était, sans le vouloir, il pourrait aussi endommager le blé, car Christ a dit que ce serait l'œuvre de ses anges de séparer l'ivraie du blé. De plus, Christ a dit que ceux qui ne l'ont pas visité en prison dans ses membres iraient au châtiment éternel, alors que deviendra-t-il de ceux qui le jettent en prison, là où il est rendu manifeste dans ses membres? Prenez ces choses à cœur, un jour de jugement viendra, vengeance et rétribution sur chacun selon ses œuvres. Aux disciples qui auraient voulu faire descendre le feu du ciel pour consumer ceux qui ne le recevaient pas, il se retourna, les reprit et leur dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, car il n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour la sauver. » C'est pourquoi, que tous magistrats et prêtres, dans ce qu'on appelle la chrétienté, considèrent ceux qui, depuis les jours des apôtres, ont détruit la vie des hommes et des femmes parce qu'ils ne voulaient pas recevoir les religions, voies et cultes qu'ils ont faits et établis. Ont-ils su de quel esprit ils étaient? Ne sont-ils pas tous repris et placés sous le jugement de Christ? Qu'on renonce donc à toute persécution en matière de religion, que l'amour règne pour vaincre le mal et les ennemis, que la patience gouverne la passion en tout, afin que tous conservent la raison céleste et la pure intelligence, et que votre modération dans le vrai christianisme soit connue de tous les hommes. Car n'avez-vous pas les yeux des Turcs, des Juifs, des Tartares, des Indiens et des athées fixés sur vous? Soyez donc dans l'unité, et que le nom de Dieu et de Christ ne soit pas blasphémé parmi eux à cause de ceux qui portent le nom de chrétiens. Ainsi Dieu peut être glorifié par tous et en tout, par Jésus-Christ qui est au-dessus de tout, qui appelle tous à la paix, et qui est béni à jamais. Je voudrais que vous soyez aussi nobles que les Béréens et que vous scrutiez les Écritures de Christ et des apôtres. Où lui ou eux ont-ils donné le moindre commandement d'emprisonner, de bannir, de persécuter ou de mettre à mort ceux qui ne voulaient pas les recevoir ou se conformer à eux, ou qui pensaient autrement qu'eux en matière de religion, ou différaient d'eux en matière de culte? De nouveau, je désire que tous les magistrats chrétiens scrutent les Écritures et les Chroniques et voient quelle fut la fin de tous les persécuteurs et quels jugements vinrent sur eux. Qu'arriva-t-il à Caïn, qui fut le premier persécuteur en matière de foi et de sacrifice, ne devint-il pas vagabond et fugitif sur la terre? Qu'advint-il de l'ancien monde qui affligea Dieu, et Noé, prédicateur de justice? Qu'advint-il de Sodome qui tourmenta le juste Lot? Qu'advint-il de Pharaon qui persécuta le peuple de Dieu en Égypte? Bien que plus il les persécuta, plus ils croissaient. Qu'advint-il d'Achab et de Jézabel qui persécutèrent les prophètes du Seigneur? Et qu'advint-il d'Aman qui aurait voulu détruire les Juifs? Qu'advint-il des Juifs et de Jérusalem qui persécutèrent Christ et les apôtres? Quelle fut la fin de tout cela? Ne sont-ils pas devenus des vagabonds sur la terre et n'ont-ils pas été chassés de leur pays natal? C'est pourquoi je vous en prie, dans l'amour et la crainte de Dieu, soyez assez nobles pour scruter l'Écriture et l'Histoire, et ne laissez pas votre intelligence divine s'obscurcir. Que deviendront la bête et la prostituée dont parle l'Apocalypse avec leurs faux prophètes qui ont bu le sang des saints, des martyrs et des prophètes de Jésus? Ne doivent-ils pas tous aller avec le diable, qui est meurtrier, destructeur et adversaire du genre humain, dans les temps de feu brûlant de soufre? Soyez assurés que l'esprit qui vous pousse à la persécution, en qui qu'il se trouve, n'est pas de Christ ni de sa nature d'agneau, lui qui ôte les péchés du monde, et non la vie des hommes. Paul fut persécuteur, traînant les gens en prison, avant sa conversion au christianisme, mais jamais après. Et dès lors, tous ceux qui sont dans la nature de Saül, quel que soit le nom ou la profession de Sion qu'ils aient, ne sont-ils pas persécuteurs et non convertis à la vie chrétienne de Paul? Après sa conversion, Paul dit que la vie qu'il vivait était par la foi au Fils de Dieu. Et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et Christ est venu pour sauver la vie des hommes, et non pour la détruire. Cette vie devrait être la vie de tous les chrétiens maintenant, celle dans laquelle Paul, une fois converti, vivait. Et l'apôtre a dit, « La loi est bonne, si quelqu'un en fait un usage légitime, sachant ceci, que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans-loi, pour les impies et les pécheurs, pour les gens irréligieux et profanes, pour les meurtriers de père et de mère, pour les homicides, pour les débauchés, pour ceux qui se souillent avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs et les parjures. 1 Tim 1:9 dit ainsi « La loi a sa place et bonne contre ceux-là ». De nouveau, l'apôtre dit « La loi a été ajoutée à cause des transgressions ». Galates 3:19. Ici, tous les magistrats peuvent voir contre quoi la loi, à sa place est bonne, pourquoi elle a été faite et contre quoi, et quel mot, dit l'apôtre, elle saisit. Il ne dit pas que la loi doive être imposée à des hommes qui diffèrent de dans leur religion et leur jugement, ni à des hommes justes. Ainsi, vous pouvez voir en quelles conditions la loi est bonne, et contre quoi elle a été faite, non contre les hommes justes contre lesquels ils n'ont rien, sinon qu'ils diffèrent d'eux en matière de religion, laissant des meurtriers, des débauchés, des parjures, des impies, des profanes, des menteurs, etc., impunis, et ainsi ils n'emploient pas, ni n'exécutent la loi légitimement. Comme le dit l'apôtre, la loi est bonne si quelqu'un en fait un usage légitime. Il convient donc d'en faire un usage légitime, loi qui, dit l'apôtre, est pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien, comme on peut le voir. Rome 13:3 Ainsi comme l'a dit l'apôtre, nous n'abolissons pas la loi, nous ne la rendons pas nulle, mais nous confirmons la loi. Rome 3:31. Ceci vient de celui qui désire à tous votre bien éternel et votre salut en Jésus-Christ. Amen. George Fox Kingston Upon Thames, le 4 jour du premier mois, 1680 après avoir achevé ses services, je retournai à Londres, où je restai environ un mois, travaillant parmi les amis à l'œuvre du Seigneur, tant dans les réunions publiques d'adoration que dans celles relatives aux affaires extérieures de l'Église. Puis, sentant mon esprit attiré à visiter les amis vers Enfield, je me rendis à Waltham Abbey, où j'eus une réunion très précieuse, et une autre à Flamstead Heath. Ayant passé quelque temps parmi les amis de la région, et ayant eu beaucoup de bonnes réunions à Edmonton, Enfield, Winchmoor Hill et d'autres lieux, je revins à Londres un peu avant la réunion annuelle, qui eut lieu au troisième mois, 1681. Ce fut une réunion très précieuse, où la glorieuse présence et la puissance du Seigneur furent éminemment ressenties et goûtées. Quelque temps après, il me vint à cœur d'écrire l'épître suivante, aux réunions trimestrielles des hommes et des femmes, rassemblées au nom et dans la puissance de Jésus-Christ, le second Adam qui est à la fois tête et époux de son Église, le Rédempteur, l'Acquéreur, le Sauveur, le Sanctificateur et celui qui réconcilie ses fils et ses filles avec Dieu. Je dis sentez la présence de Christ au milieu de vous, pour exercer son office prophétique, en vous éclairant par sa lumière, sa grâce, sa vérité, sa puissance et son esprit. Comme Christ est berger, sentez, voyez et entendez-le exercer cet office, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, les paix dans ses pâturages vivants de vie, et les fait boire à ses sources vivantes et éternelles. Qu'il règne et gouverne dans vos cœurs, comme il est roi, afin que tous vivent sous son gouvernement céleste et spirituel, comme de vrais sujets de son royaume juste et pacifique, qui subsiste dans la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, au-dessus de Satan et de sa puissance, l'esprit impur et non saint, et de toute injustice. Ainsi vous tous, sujets du royaume de paix de Christ, si vous voulez la sagesse, la connaissance, la vie ou le salut, Christ est le trésor, sentez-le, le trésor au milieu de vous. Et chacun, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui en qui vous avez la paix, lui qui écrase la tête du serpent, l'auteur de toute crêle, distraction et confusion, oui, vous avez la paix avec Dieu et les uns avec les autres, même si le trouble vient du monde et de l'esprit du monde. C'est pourquoi, mes chers amis, frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres de l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs, afin de porter les marques des disciples de Christ, et qu'il paraisse que Christ est en vous et que vous êtes en lui, afin que Dieu Tout-Puissant soit glorifié au milieu de vous. Quoi que vous fassiez, que cela soit fait au nom de Jésus, à la louange de Dieu le Père, demeurant dans l'unité du Saint-Esprit de Dieu, qui était avant que l'Esprit impur ne fût. Ce Saint-Esprit est votre lien de paix, oui, la paix du Saint-Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Et dans cet Esprit Saint et pur se trouve votre unité et votre communion éternelle. En cet Esprit de vérité, vous servez et adorez le Dieu de vérité, qui est Dieu au-dessus de tout, béni à jamais. Amen. Que le Seigneur vous guide tous par sa parole de patience, parole de vie, puissance et sagesse dans toutes vos actions, vie, conduite et réunion pour la gloire de Dieu. Mon amour à vous tous dans le Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été faites, lui qui est au-dessus de tout, le premier et le dernier. George Fox Londres, le 9 jour du 4 mois, 1681 à peu près à cette époque, j'eus occasion de me rendre dans plusieurs chambres de juges à l'occasion d'un procès au sujet des dîmes, car ma femme et moi, avec plusieurs autres amis, avions été poursuivis devant la cour du Wapentake de Cartmel, dans le Lancashire, pour de petites dîmes, et nous avions contesté la compétence de cette cour. Alors le demandeur nous poursuivit à la cour de l'échiquier à Westminster, où ils allèrent jusqu'à obtenir contre nous un writ of rebellion, pour n'avoir pas répondu à la plainte sous serment, Et ils obtinrent une ordonnance de la cour enjoignant au sergent de me mettre, moi et ma femme, en détention. C'était peu avant la réunion annuelle, et l'on pensait qu'alors ils m'auraient arrêté, et selon les apparences extérieures c'était probable, et très facile pour eux de le faire, car je logeais aux mêmes endroits que d'ordinaire et j'étais très présent aux réunions. Mais la puissance du Seigneur était sur eux et les retint, de sorte qu'ils ne me prirent pas. Toutefois, ayant appris qu'un mandat était délivré contre moi, sitôt la réunion annuelle bien terminée, je pris William Mead avec moi et allai dans plusieurs chambres de juges, afin de leur faire comprendre à la fois l'état de l'affaire et le fondement et la raison de notre refus de payer les dîmes. Le premier auprès duquel nous allâmes fut le juge Gregory, à qui je présentai ma réponse et celle de ma femme à la plainte du demandeur. On y exposait que ma femme avait vécu 43 ans à Swarthmore et que durant tout ce temps aucune dîme n'y avait été payée ni demandée, et qu'un vieil homme, qui avait longtemps été collecteur de dîmes, avait fait une déposition sous serment qu'il n'avait jamais perçu de dîmes à Swarthmore Hall du temps du juge Fell, ni depuis. Notre réponse contenait bien les détails, mais elle ne fut pas acceptée sans serment. Je dis au juge que la dîme et le serment, parmi les chrétiens, venaient du pape, et qu'il nous était affaire de conscience de ne pas payer les dîmes ni de jurer, car le Christ avait dit à ses disciples, qui avaient reçu gratuitement, de donner gratuitement, et il leur avait commandé de ne jurer en aucune manière. Le juge dit qu'on payait des dîmes en Angleterre avant la papauté. Je lui demandai selon quelle loi ou quel statut elles étaient payées alors, mais il se tut. Puis je lui dis qu'on avait fait venir à Londres du Nord, sur environ 200 000, 8 pauvres hommes pour de petites dîmes, l'un d'eux n'avait pour famille que lui-même et sa femme, et ne gardait aucun animal vivant sinon un chat. Je lui demandai aussi s'il pouvait prendre un homme et sa femme, les emprisonner tous deux pour de petites dîmes, et ainsi détruire une famille, s'il le pouvait, je désirais savoir par quelle loi. Il ne me répondit pas, il dit seulement que c'était un cas difficile. Quand je vis qu'on n'y pouvait obtenir aucun secours, nous le quittâmes et allâmes à la chambre du juge Montag. Avec lui, j'eus un long entretien au sujet des dîmes. Là-dessus, il fit venir l'avocat de notre adversaire, et quand il fut venu, je lui offris notre réponse. Il dit que si nous voulions payer les frais de la cour, et nous engager à comparaître et à nous en remettre au jugement de la cour, on ne nous imposerait pas le serment. Je lui dis qu'il nous avait attiré ses frais en exigeant que nous présentions notre réponse sous serment, ce qu'il savait que nous ne pouvions faire pour raison de conscience, et comme nous ne pouvions payer aucune dîme ni jurer, de même nous ne paierions aucun de leurs frais, sur quoi il refusa de recevoir notre réponse. Nous allâmes donc de là à la chambre du juge Atkin, et comme il était occupé, nous donnâmes nos réponses et nos raisons contre les dîmes et le serment à son greffier, mais de sa part non plus nous ne pûmes trouver aucun encouragement à espérer réparation. Après l'avoir quitté, nous allâmes chez l'un des conseillers les plus renommés et lui exposâmes l'état de notre affaire et nos réponses. Il se montra très civil envers nous et dit « Cette manière de procéder contre vous ressemble quelque peu à une inquisition. » Quelques jours après, ces 8 pauvres amis, amenés de si loin du Nord, comparurent devant les juges, et le Seigneur était avec eux, et sa puissance était sur la cour, de sorte que les amis ne furent pas envoyés à la flite. Notre cause fut renvoyée au terme suivant appelé terme de la Saint-Michel, et alors elle fut de nouveau portée devant les 4 juges. William Mead dit au juge que je m'étais engagé à ne jamais me mêler des biens de ma femme. Les juges avaient peine à croire qu'un homme pût faire cela, sur quoi il leur montra l'écrit portant ma main, mon sceau, ce dont ils s'étonnèrent. Puis 2 des juges et quelques avocats se levèrent et plaidèrent pour moi, disant que je n'étais pas tenu aux dîmes, mais les 2 autres juges et plusieurs avocats pressèrent vivement pour qu'on ordonnât une mise sous séquestre contre moi, alléguant que j'étais un homme public. Enfin, ils persuadèrent l'un des 2 autres juges de se joindre à eux, et alors ils accordèrent une séquestration, saisie de biens contre moi et ma femme ensemble. Sur quoi, sur avis de conseil, nous demandâmes une limitation, qui fut accordée, et cela déjoua grandement le dessein de notre adversaire en obtenant la séquestration, car cela limitait le demandeur à ne prendre que ce qui serait prouvé. L'un des juges, le baron Weston, était très amé et cria contre moi avec grande fureur en pleine audience, mais peu de temps après, il mourut. Après la réunion annuelle, je restai environ un mois à Londres, puis j'allai dans le Sussex pour y visiter les amis, parmi lesquels j'eus de très grandes et très précieuses réunions en plusieurs endroits de ce comté. Je ne passai pas beaucoup de temps dans le Sussex, mais revins assez tôt à Londres, où je sentis des mouvements dans mon esprit. Et nous y eûmes un très bon service pour le Seigneur, tant dans les réunions publiques que parmi les amis. Après avoir été quelque temps à Londres, j'allai à Edmonton, et de là dans le Buckinghamshire, où je visitai les amis à plusieurs réunions dans la partie haute de ce comté, puis je passai par Henley jusqu'à Reading, où j'assistai à plusieurs réunions. Je n'allai pas plus à l'ouest cette fois, qu'à Or, où j'eus une très grande réunion, Après quoi, en traversant le bord de l'Oxfordshire, j'eus à Woburn une grande et très précieuse réunion, où la gloire du Seigneur resplendit sur tous. Beaucoup d'amis vinrent à cette réunion depuis le Berkshire, le Buckinghamshire et le Hampshire. De là je passai à Ilmore, dans la vallée du Buckinghamshire, où nous eûmes une réunion glorieuse. Le lendemain, je retournai chez Mary Pennington. De là, je visitai les réunions mensuelles des hommes et des femmes à Hunger Hill, ainsi que quelques autres réunions dans les environs. Je passai ensuite à Watford, où j'assistai au mariage de deux amis. Nous eûmes une très grande réunion à cette occasion, et la puissance du Seigneur était sur tous. Je passai de Watford à Longford, dans le Middlesex, en visitant les amis à Uxbridge en chemin. À Longford, comme c'était le premier jour, nous eûmes une grande réunion, et la présence du Seigneur fut précieusement ressentie parmi nous. Béni soit son nom, je passai de Longford à Kingston, en visitant les amis à Staines et Sunbury. À Kingston, je demeurai avec les amis durant deux réunions, où nous fûmes doucement rafraîchis ensemble en le Seigneur. De là, en allant vers Londres, j'eus une très précieuse réunion à Wandsworth, puis, passant à Hammersmith, j'y eus une bonne réunion, qui fut d'autant plus grande qu'il y avait un enterrement, et qu'il y avait alors une assez grande ouverture dans le peuple à cette occasion, j'eus une belle opportunité d'ouvrir parmi eux la voie de la vérité. Après mon arrivée à Londres, je fus poussé à écrire le papier suivant au sujet de cet esprit qui avait conduit certains, qui professaient la vérité à la crêle et à la division, et à s'opposer à la voie et à l'œuvre du Seigneur. Amis, vous qui gardez votre demeure dans la vérité qui est au-dessus de tout, voyez que c'est le même esprit qui conduit aujourd'hui les rétrogrades et les apostats hors de la communion spirituelle et de l'unité de l'Église du Christ, que celui qui conduisit Adam et Ève loin de Dieu. Cet esprit est le même que celui qui était dans le monde et qui entra dans les Juifs lorsqu'ils s'étaient éloignés de l'Esprit de Dieu, puis il se tourna contre Dieu et ses prophètes et contre le Christ et ses apôtres. Cet esprit les conduisit à être aussi mauvais que Pilate, ou pire. L'inimitié où l'adversaire avait pénétré en eux contre la vérité, et contre ceux qui y marchaient, et contre l'Esprit du Seigneur, de sorte qu'ils tuèrent et détruisirent le juste. C'était l'Esprit du diable, le destructeur, qui cherchait non seulement à détruire la vérité, mais aussi l'ordre de celle-ci, et ceux qui y marchaient, lorsque le vrai christianisme fut planté parmi les possesseurs de la lumière, de la grâce et de la vérité, la sainte foi et l'esprit de l'Évangile, qui jouissaient du Christ dans leur cœur. Mais lorsque certains commencèrent à s'égarer de l'esprit et de la foi, à haïr la lumière, à désobéir à l'Évangile, à changer la grâce de Dieu en licence, à marcher avec mépris contre l'esprit de grâce, à se détourner de la vérité, à crucifier de nouveau pour eux-mêmes le Christ, et à l'exposer à l'opprobre, ce furent ceux-là qui laissèrent entrer l'esprit du monde, qui avait l'apparence de la piété mais en reniait la puissance, et ils troublèrent les églises au jour des apôtres. Lorsque l'esprit de Satan s'était emparé de tels hommes, ils étaient plus gênants pour l'église que les persécuteurs déclarés du dehors. Cela s'introduisait dans les assemblées pour tromper le cœur des simples, avec de bonnes paroles et de beaux discours, la peau de brebis. Paul, Pierre, Jean, Jude et Jacques eurent fort à faire avec de tels hommes, afin de les empêcher de troubler l'église du Christ, car ils sont hors de la lumière, de la puissance et de l'esprit. C'est pourquoi les apôtres du Christ exhortaient les saints à demeurer attachés à la parole de vie au-dedans, à l'onction, à la grâce, à la vérité et au Saint-Esprit dans leur cœur. Cet esprit impur professera en parole toutes les Écritures, mais par l'Esprit de Dieu, qui est saint, cet esprit impur est éprouvé ainsi que ses fruits. Ainsi les apostats s'éloignèrent de la puissance et de l'Esprit de Dieu, et se retournèrent contre les prophètes et les martyrs de Jésus, et ils devinrent la prostituée, dont toutes les nations burent la coupe. Le dragon, avec sa queue, fit tomber beaucoup d'étoiles, et il aurait dévoré la femme par son déluge. Mais la femme, la vraie Église, fut préservée, car les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, et alors le dragon fit la guerre à sa postérité. Ainsi le dragon, la prostituée, la bête et les faux prophètes, tous firent la guerre à l'agneau et aux saints, mais l'agneau et les saints les vaincront et auront la victoire. Et maintenant l'Évangile éternel est de nouveau prêché à toutes nations, langues et peuples. Et beaucoup sont rassemblés dans l'Évangile, la puissance de Dieu, tournés vers la lumière qui est la vie en Christ, greffés en lui, et sont venus marcher dans l'ordre de la nouvelle alliance de lumière et de vie, dans l'Évangile de paix et de salut. Le même esprit qui s'opposait aux apôtres et aux églises en leur temps, s'oppose maintenant. Oui, c'est le même qui s'opposa au Christ et le dédaigna, qui dédaigne aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Le même qui s'opposa aux prophètes et se rebella contre Moïse, s'oppose et se rebelle aujourd'hui contre les serviteurs et le peuple de Dieu. C'est le même esprit sombre, aveugle, désobéissant, sans foi, volontaire, jaloux, qui persécute certains par les mains et d'autres par la langue. C'est le même esprit qui rôde maintenant, tantôt comme un lion rugissant, tantôt comme un serpent tortueux pour tenter, tromper et dévorer chez ceux qui ont de beaux discours et de bonnes paroles, la peau de brebis dans une forme de piété sous prétexte de lumière et de liberté, mais qui en nient la puissance et qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. S'il était possible, ils tromperaient même les élus. Mais les élus sont dans l'alliance de lumière et de vie, dans la puissance de Dieu sur eux, et dans le Christ, qui les mettra en pièces et tuera tous ses ennemis avec son épée spirituelle, ceux qui ne veulent pas qu'il règne sur eux ou en eux. En Christ, tout son peuple a reposé paix, lui qui est leur sanctuaire au-dessus de toutes les bourrasques et tempêtes. En Christ, le sanctuaire, nul trompeur ni destructeur ne peut entrer, car il est un lieu de doux repos et de sécurité. Alléluia, louez le Seigneur pour son sanctuaire. Amen. George Fox, les souffrances continuaient d'être sévères pour les amis à Londres, si bien que je trouvais que mon service se situait principalement là. Pour cette raison, je quittais rarement la ville, et si je le faisais, je n'allais pas loin. J'assistais fréquemment à la plupart des réunions publiques pour encourager les amis, tant par la parole que par l'exemple, à demeurer fermes dans le témoignage auquel Dieu les avait appelés. D'autres fois, j'allais de maison en maison, visitant ces amis auxquels on avait enlevé leurs biens à cause de leur témoignage pour la vérité. Les méchants dénonciateurs étaient devenus fort audacieux parce qu'ils trouvaient beaucoup de sympathie et d'encouragement chez certains juges de paix qui, se fiant entièrement à leurs informations, agissaient contre les amis sans les entendre, par quoi beaucoup furent amenés à souffrir, non seulement contrairement à la justice morale, mais même contrairement à la loi. Je m'en entretins avec quelques amis et nous rédigeâmes un écrit qui fut remis à la plupart des magistrats dans la ville et aux environs. Ainsi, des dénonciateurs ont obtenu des mandats de certains juges de paix qui ont condamné beaucoup d'entre nous sans nous entendre, ni même une seule fois nous sommer de comparaître devant eux. Par ces procédés, beaucoup ont vu leurs biens personnels saisis et emportés, étant généralement condamnés à une amende de 10 livres chacun comme « orateurs inconnus » dans une réunion, alors que certaines des personnes ainsi condamnées n'avaient même pas assisté aux réunions pour lesquelles elles furent amendées pour avoir parlé. Et cette amende ignorait que le véritable orateur avait déjà été amendé pour la même réunion, le même jour où les autres furent amendés comme l'orateur inconnu. Les juges de paix peuvent voir la méchanceté de ces dénonciateurs, par les faux serments desquels nous avons été condamnés pour « prédicateur inconnu », alors que le prédicateur a déjà été connu et amendé. Les juges de paix peuvent aussi noter que les dénonciateurs ont juré que telle personne avait été à telle réunion tel jour, alors qu'en vérité ceux contre lesquels on a ainsi juré n'avaient jamais assisté à cette réunion. Par ces procédés, cette famille des paisibles sujets du roi risque d'être ruinée, à moins que ces pratiques ne cessent promptement. C'est pourquoi nous espérons et désirons qu'à l'avenir vous, juges de paix du roi, lorsque des dénonciateurs viendront à l'un de vous avec une information contre l'un de nous, vous sommerez les accusés de comparaître devant vous et nous écouterez, nous et nos accusateurs, face à face, afin que l'innocent ne souffre pas à tort. Car Pilate, le gouverneur, entendit le Christ et ses accusateurs face à face avant de le condamner. Jean 19. Le conseil et les principaux prêtres entendirent Étienne et ses accusateurs, avec les témoins amenés contre lui, face à face avant de le condamner. Acte 7. Le capitaine romain entendit Paul et ses accusateurs face à face. Acte 23. Félix, le gouverneur, entendit Paul et Anania le grand prêtre, ainsi que les anciens qui accusaient Paul face à face. Acte 24. Et lorsque les grands prêtres et les chefs des Juifs accusèrent Paul auprès de Festus, il entendit Paul, ses accusateurs et ceux qui témoignaient contre lui face à face. Acte 25. La loi de Dieu, ou la loi romaine, ou la loi du pays, juge-t-elle un homme avant qu'il ait été entendu face à face avec ses accusateurs et avec ceux qui témoignent contre lui? Cela modéra quelque peu les juges de paix, et après cela plusieurs amis, qui avaient été poursuivis et inquiétés illégalement, interjetèrent appel lors de l'examen de leur cause, ils furent acquittés et les dénonciateurs condamnés. Il s'ensuivit un grand découragement pour les dénonciateurs et quelques soulagements pour les amis. Un peu avant le moment de choisir de nouveaux shérifs pour la ville, certains candidats aux fonctions, qui désiraient le soutien des amis, je leur écrivis quelques lignes, tendant à faire voir de quel esprit ils étaient et quelle valeur ils accordaient à la vraie liberté. C'était une enquête révélatrice comme suit. Y en a-t-il à Londres, parmi ceux qui se présentent pour être choisis shérifs, qui reconnaissent que le Christ, qui fut crucifié hors des portes de Jérusalem, est la lumière du monde, lui qui éclaire tout homme venant dans le monde, et qui a dit « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de lumière ». L'un de vous est-il contre le fait de persécuter les gens pour leur religion et leur culte rendu à Dieu en esprit et en vérité, comme le Christ le commande, car le Christ a dit « Je ne suis pas de ce monde, et mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est pourquoi il ne soutient pas son culte spirituel et sa pure religion par des armes mondaines et charnelles. Le Christ a dit « Ne jurez aucunement » et son apôtre Jacques a dit de même « Mais en nous imposant des serments, ne nous forcez-vous pas à jurer et à enfreindre les commandements du Christ et de son apôtre, Le Christ a dit à ses apôtres, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ne nous forcerez-vous pas à donner des dîmes et un entretien à de tels enseignants dont nous savons que Dieu ne les a pas envoyés. Si nous vous donnons le soutien de nos voix, serons-nous libres de servir et d'adorer Dieu et de garder les commandements de lui et de son Fils, car nous ne voulons pas donner nos voix à ceux qui pourraient nous emprisonner et nous persécuter et saisir nos biens personnels. Mais quels que fussent les candidats, j'observais chaleur et crêle dans l'esprit du peuple qui devait choisir. C'est pourquoi j'écrivis quelques lignes à diffuser parmi eux adressées au peuple qui choisit les shérifs à Londres. Peuple, demeurez tous dans la sagesse douce et paisible de Dieu, qui est au-dessus de ce qui est terrestre, sensuel et diabolique, et vivez dans cet amour de Dieu qui ne s'enfle pas d'orgueil et ne fait rien d'inconvenant, qui n'envie point, mais porte et endure toute chose. Dans cet amour, vous chercherez le bien et la paix de tous les hommes, et le mal de personne. Tenez-vous hors de toutes les ardeurs, ne vous échauffez pas, mais soyez calmes et doux, afin que votre modération chrétienne soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche, lui qui voit les paroles, les pensées et les actions de tous, et qui rendra à chacun selon son œuvre, ce que chaque homme sème, il le récoltera. J'avais quelque inclination à aller à la campagne pour une réunion, mais apprenant qu'il y aurait du trouble dans nos réunions, et sentant une grande inquiétude dans l'esprit des gens de la ville au sujet du choix des shérifs, il me fut imposé d'aller à la réunion de Gracechurch Street le premier jour. William Penn m'accompagna et parla dans la réunion. Pendant qu'il déclarait la vérité, un agent de police entra avec son grand bâton et lui dit de céder et de descendre, mais William Penn continua de parler, déclarant la vérité dans la puissance de Dieu. Au bout d'un moment, l'agent recula, et quand William Penn eut fini, je me levai et déclarai au peuple l'évangile éternel qui fut prêché au jour des apôtres et à Abraham, dont l'Église des apôtres reçut et devint héritière. Cet évangile, déclarai-je, fut envoyé du ciel par le Saint-Esprit au jour des apôtres, et il l'est aujourd'hui, et il n'était pas d'homme, ni par l'homme, mais par la révélation du Saint-Esprit. Et maintenant cet évangile est de nouveau prêché, comme Jean vit et dit qu'il devait l'être à toute nation, langues et peuples, et tous les peuples doivent maintenant écouter le Christ le prophète dans cet évangile de la Nouvelle Alliance. Car comme Moïse a dit, Dieu suscitera un prophète semblable à moi, et vous l'écouterez en toutes choses. Ainsi dis-je, ce prophète, le Christ, est venu, et tous les Juifs en esprit, les vrais chrétiens croyant dans la lumière, qui ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur et mise dans leur entendement, doivent écouter le Christ dans son évangile, Nouveau Testament et Nouvelle Alliance, qui est la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, lequel écrase la tête du serpent, qui est la tête de l'inimitié, et affranchi de la loi du péché et de la mort. Je montrai que tous ceux que le Christ vivifie et rend vivants, il les fait asseoir ensemble, dans les lieux célestes en lui-même. De sorte qu'ils ne vont pas errant çà et là, comme l'œil du fou au coin de la terre, et que leurs yeux ne sont pas au dehors, dans le monde, pour s'asseoir dans les sièges de religion inventés par le monde, mais ils s'assoient ensemble en lui, comme les saints le faisaient au jour des apôtres. Ainsi le Christ était et est leur trésor de sagesse, de vie, de connaissance et de salut. Comme je parlais ainsi, deux agents entrèrent avec leurs grands bâtons et me commandèrent, « Cessez de parler et descendez. » Mais sentant la puissance du Seigneur avec moi, je continuai de parler en elle, tant aux agents qu'au peuple. Aux agents, je déclarai que nous étions un peuple paisible, qui se réunit pour attendre Dieu et l'adorer en esprit et en vérité, et qu'ils n'avaient donc pas besoin de venir avec leurs bâtons contre nous, qui nous réunissions paisiblement, désirant et cherchant le bien et le salut de tous les peuples. Puis, tournant de nouveau ma parole vers le peuple, je déclarai ce qui m'était encore donné pour eux. Pendant que je parlais, les agents se rapprochèrent de la porte, et les soldats se tenaient avec leurs mousquets dans la cour. Quand j'eus fini de parler, je m'agenouillai et priai, désirant que le Seigneur ouvre les yeux et les cœurs de tous, grands et petits, afin que leurs esprits soient tournés vers Dieu par son Saint-Esprit, qu'ils soient glorifiés en tous et par-dessus tous. Après la prière, la réunion se termina et les amis se retirèrent, les agents rentrant sans les soldats, et en vérité, tant eux que les soldats se comportèrent avec civilité. William Penn et moi allâmes dans une pièce voisine, comme nous en avions l'habitude, et beaucoup d'amis vinrent avec nous, et de peur que les agents ne pensent que nous voulions leur échapper, un ami descendit et leur dit que s'ils avaient quelque affaire avec nous et souhaitaient nous voir, ils devaient venir à l'endroit où nous étions. L'un d'eux vint à moi peu après, mais sans son bâton, il choisit ainsi de faire, afin de ne pas être remarqué, car, dit-il, le peuple lui disait qu'il s'occupait plus que nécessaire. Nous désirâmes voir son mandat, et nous y trouvâmes que le dénonciateur se nommait Hilton du Nord et était réputé papiste. On demanda à l'agent s'il nous arrêterait en vertu de son mandat ce jour-là, étant premier jour, que leur loi appelait le jour du Seigneur. Il dit, il pensait qu'il ne le pouvait pas. Il nous dit aussi qu'il avait enjoint au dénonciateur de venir avec lui à la réunion, mais que celui-ci s'était enfui. Nous montrâmes à l'agent que lui comme nous étions quittes de toute obligation, et toutefois, pour le délivrer de toute crainte de danger, nous irions volontiers chez l'échevin qui avait accordé le mandat. Un ami présent dit qu'il irait avec l'agent pour parler avec l'échevin, ce qu'ils firent, et ils revinrent vite parce que l'échevin était sorti. Voyant l'agent dans l'embarras, et le trouvant homme sensible, nous lui dîmes de fixer une heure pour revenir nous rencontrer, ou de nous faire appeler et nous viendrions à lui. Il fixa ainsi la cinquième heure de l'après-midi, mais ne vint pas et ne nous fit pas appeler. Et lorsqu'un ami le rencontra plus tard dans la soirée, l'agent lui dit, il pensait que cela n'aboutirait à rien, et c'est pourquoi il ne nous avait pas relancés. Ainsi la puissance du Seigneur fut sur toute chose, à lui la gloire, back next.